Et là, Benoît nous arrive cette semaine, mesdames, messieurs, avec quelque chose de fondamental. Est-ce que ça sent bon dans votre voiture? Et là, ça varie d'une personne à l'autre.
Exact.
Benoît.
Et évidemment, cela dépend de la capacité de chaque personne. Il y a des gens pour qui une petite odeur devient envahissante et il y en a d'autres pour qui, bon, ça va. Ça sent le chien mouillé à l'année dans l'auto,
ça se tolère.
Disons que on est en 2019, on jase.
Oui.
La pire façon de gâcher l'odeur de votre habitacle, c'est de fumer dans le char.
C'est ça, une
fumée en 2019.
Oui, oui. Et surtout si vous avez des sièges en tissu, hein, ça rentre dans le tissu. Là,
en plus.
Ça, là, ça sent...
Benoît, ça se fait plus. Ça se fait plus.
Ça se fait encore. J'en vois tous les jours.
Come on! Hey! Mettons que vous êtes encore fumeur. Il y a moyen d'être fumeur, mais pas fumer en dedans de la voiture.
Si tu travailles pour Febreze, t'es correct. Mais...
Les fumeurs, là, on parle pas des fumeurs sociaux, là, les fumeurs, les vrais fumeurs, une voiture de fumeur, c'est difficile à vendre. Parce que c'est une odeur qui s'imprègne, qui colle, et c'est très difficile à éliminer.
Notre patronne ici là, nous fait remarquer que dans les voitures, il y a même plus de briquets.
Non. En fait, ça s'achète comme option. Ouais. Certaines compagnies ont encore l'option où on met dans le porte-gobelet un cendrier. Donc, on met ça a la forme du porte-gobelet, puis les gens peuvent mettre ça comme option. Ça s'achète encore chez certaines compagnies,
bon.
Pas toutes.
Évidemment, il y a d'autres moyens de lutter pour tenter d'éliminer ces odeurs désagréables de nos voitures.
Puis, c'est pas des manières compliquées. Oui.
Mais c'est parce que je pense au mien.
Tout le monde
a un bac à recyclage.
Tout le monde a dépensé. Qu'est-ce qui peut puer de même?
Oui.
C'est ça que j'essaie de comprendre.
Des bobettes, c'est si vite oublié.
Non, mais c'est souvent des odeurs d'humidité. Des humeurs d'humidité. D'abord, assurez-vous toujours que vos tapis...
Des mi-windows.
Parce que il y a certains gens qui vont mettre des tapis d'auto d'hiver. D'autres vont mettre des plastiques. Assurez-vous que l'habitacle est toujours bien sec. Des odeurs d'humidité, ça persiste. Et si vous avez des tapis, c'est mon truc d'aujourd'hui, vous mettez du bicarbonate de soude.
La petite vache.
La petite vache, absolument, qu'on saupoudre et imprégnez-la dans le tapis et laissez agir. Le bicarbonate de soude absorbe les mauvaises odeurs qui viennent des tapis.
Encore quelque chose qu'on apprend cette semaine.
Et ensuite,
de la petite vache direct dans le tapis.
Direct dans le tapis. Et si l'odeur est assez persistante, laissez-le toute la nuit. Mettez-le, installez-le, imprégnez-le. Moi, j'y vais là, avec mes mains. Là. Puis on le met dans le tapis, puis on le laisse là. Puis on le laisse toute la nuit. Puis le lendemain, on passe l'aspirateur. Et généralement, ça règle le problème d'odeur dans les tapis.
Toi, t'as toujours un
char neuf. Oui, mais j'ai quand même mon auto à moi aussi. Là.
Ah oui, okay.
Moi, je change d'auto tous les lundis. J'ai pas le temps de faire ça avec les voitures de presse, mais avec mon auto.
Ouais.
C'est un petit truc. Et le bicarbonate de soude, ça tâche pas, ça fait pas, ça abîme pas.
Alors, Benoît, l'humidité est le pire ennemi de la voiture. Je parle pour l'odeur, notamment lorsque on ne déneige pas les tapis. On entre directement dans un garage. Chauffer, il n'y a rien de pire. Parce que là, vous laissez fondre la neige.
Exact.
Et l'eau, évidemment, va venir imbiber le tapis et avec une odeur d'humidité.
Ça va rester. Ça va coller. Ouais.
Est-ce qu'il peut y avoir des dommages quand on laisse aller les choses comme ça, de
Écoute,
laisser fondre?
À l'extrême, peut-être, si tout ça se mélange, peut-être avec du calcium qui serait en dessous. L'eau est un catalyseur avec le calcium, mais on est dans des limites extrêmes. Okay. C'est très rare. C'est simplement que de beaucoup de voitures qui vont rester humide tout l'hiver. Puis quand on rentre, à part de ça, c'est comme plus froid. Alors, simplement de penser de temps en temps, sortir les tapis, au moins les faire sécher, puis s'assurer que l'habitacle est bien sec. Et après ça, on peut mettre un petit peu de petite vache. Puis ça
de la petite
élimine.
Vache. On l'a ici, d'ailleurs.
Voilà,
ça, c'est la grosse vache.
Tout simple que ça.
La petite vache, c'est la grosse.
C'est le petit truc de la semaine. Alors, on aura un autre comme ça la semaine prochaine.
Et évidemment, si vous allez chercher du poulet frit avec des frites, ben laissez un petit peu d'espace.
Oui.
Ça peut rester une couple de jours. Non, c'est vrai.
Oui. Oui, quand on a de la nourriture, évidemment,
mais
ça
de la friture en particulier, ça colle.
Tu connais qui donne faim, là.
Oui.
Bicarbonate.
On va commander.
Il y a un autre auditeur qui dit le petit sapin, ça fait pas la job?
Ben, en fait, ça, c'est, ça, c'est bon pour masquer temporairement une odeur.
C'est surtout bon
là.
Pour donner mal au cœur, je pense.
Ça fait. Excusez-moi.
Si vous mangez de l'ail des bois puis vous prenez une gomme, vous allez sentir l'ail des bois qui sent la gomme. Tu sais, ça règle pas votre problème. Il faut aller plus loin que ça, là.
Ça fait, et je dis volontairement à l'angliciste, là, ça fait cheap. Un petit sapin, là, tu sais, qui se
prend. Ouais, puis ça pue plus que d'autres choses, on dirait.
C'est le rétroviseur.
Non, pour les petites odeurs, mais quand vous avez des odeurs récurrentes dans le véhicule, faut les prendre en compte et faut les régler.
Posez-vous des questions. Ouais.
Un collier,
demandez d'où ça vient.
Un collier noisetier, ça marche-tu?
Attention, c'est le collier, le collet pur noisetier.
Je ne me prononcerai pas sur
noisetier. Alors,
je me tiens loin.
Alors, c'est noté pour que ça sente bon dans le char. Le groupe Volkswagen va investir 60 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent.
Oui, ben, en fait, je trouvais la nouvelle intéressante pour tous les gens qui se disent « Mon Dieu, que le développement des véhicules électriques, ça va pas vite, puis on va-t-il l'avoir demain matin? » Évidemment, c'est une transformation radicale pour le monde automobile de passer de l'essence à l'électrique. Il y a des étapes à franchir. Et là, Volkswagen, évidemment, c'est pour tout le groupe Volkswagen. C'est pas pour la marque Volkswagen, parce que Volkswagen, c'est 10 différentes compagnies qui comprend Audi, qui comprend Lamborghini, qui comprend des marques comme Seat, etc., etc. Il y a beaucoup de monde qui est Porsche et là-dedans aussi. Donc, c'est un budget global, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on augmente les dépenses de 36 % et on va investir dans la recherche. Et l'investissement des véhicules électriques va passer à 33 milliards d'euros. On va mettre de l'autonomie là-dedans et tout ça. On dit qu'on va avoir construit 75 variantes de véhicules électriques au cours des 5 à 6 prochaines années, donc dans toutes les compagnies. On commence déjà à en voir. Je m'en vais à Los Angeles demain pour le salon de l'auto. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va en parler.
Oui. Ça, c'est un autre gros, celui de Los Angeles.
C'est un des gros salons et il y a une partie du salon qu'on appelle « Automobility ». Qui est justement tout ce qu'on a de développement dans les voitures de l'avenir. Et ça va être un volet qui va être intéressant au Salon de l'Auto.
On va faire une pause et on reviendra avec les premiers de classe au Canada en ce qui a trait à l'achat de véhicules électriques. Essayez de deviner pendant la pause où est la province où on retrouve le plus d'achats, le plus de ventes de véhicules électriques. Alors, quel est l'endroit, selon vous, au Canada, quelle province, où on vend le plus de véhicules électriques? Et François Maranda s'est fait déjouer pendant la pause. Lui, il a dit tout de suite, François t'a dit spontanément...
Le Québec.
Le Québec. Oui. Eh bien, c'est pas le Québec.
L'Ontario.
C'est pas le Québec, c'est pas l'Ontario. Oh.
Non.
C'est la Colombie-Britannique.
Ah. Et Benoît, ça s'explique parce que c'est le moins pire climat au Canada.
En fait, ça s'explique par trois choses. Non. On va faire le tour rapidement. Oui, c'est peut-être vrai. Ça s'explique aussi du fait que, bon, il y a 8 000 $ de subvention, 8 000 $ qu'on donne, 3 000 $ parce qu'on avait 5 000 $ avant de la province et 5 000 du fédéral. La province a réduit son 5 000 à 3 000 depuis quelques mois. Donc, on a 8 000. Mais l'autre affaire qui est très importante, je suis allé récemment et le litre d'essence ordinaire est à 1,62 $.
Oui, monsieur.
Ça a fait changer du monde d'idées solides.
Benoît,
parce que...
je veux dire une chose. Je suis passé là l'année passée, mais j'étais avec un motorisé.
Oh yes, avec ton Triton V10.
Avec un Triton V10. Un Triton V10.
Un puits sans fond.
J'oublierai jamais mon plein d'essence qui a duré 45 minutes à peu près à Burnaby, BC.
Oui.
Et on était déjà, l'année passée, à 1,65 $.
Exact. Ça fait mal, ça.
Je parle du jaune à 1,65 $.
Oui. On parle du régulier. 1,90 $ pour le super, là.
Exact.
Mais tu faisais le plein à même le pipeline, ou?
Trans Mountain.
Oui. En fait, c'était un libre-service, mais quand ils l'ont vu rentrer, il y a quelqu'un qui est venu le servir, monsieur.
Oui. Ah non,
il y a des gants blancs. Il ne veut pas y arriver avec des gants blancs.
Je vous dirai pas à combien on a fini. Ça a pris une hypothèque pour sortir du stationnement. Mais ça coûte horriblement cher,
ben,
l'essence.
Voilà. Alors, CB. C'est un des gros facteurs qui a motivé l'augmentation de véhicules de vente électrique. En fait, selon Mobilité électrique Canada, qui est l'organisme qui a fait le petit sondage, depuis le 1er mai 2019, 10 % des nouveaux véhicules achetés par les Britanno-Colombiens sont des véhicules électriques. Donc, la moyenne canadienne est à 3,5. Le Québec est deuxième. Quand même, on est pas loin. On est à 7% des véhicules achetés depuis le 1er mai qui sont des véhicules électriques.
Mais tu admettras, Benoît, que la météo joue. C'est-à-dire, oui, il y a l'hiver en Colombie-Britannique, surtout quand vous habitez à proximité de la frontière de l'Alberta, dans les montagnes, il neige beaucoup, tout ça. Mais en général, c'est un climat beaucoup plus tempéré.
C'est un climat qui est plus doux.
Qui est plus favorable, exact. Je pense, dans l'état actuel des choses, à l'utilisation d'un véhicule à pile, à batterie.
Et la Colombie-Britannique, comme le Québec, sont sensibilisés aussi aux véhicules électriques, à l'écologie. C'est des gens, il y a beaucoup de mesures vertes. On dit que Vancouver ou la Colombie-Britannique est un peu la Californie du Canada. On a beaucoup de mesures environnementales qui viennent de là. Elizabeth May, la seule représentante du Parti vert, est en Colombie-Britannique.
Et qui est démissionnaire, effectivement. De la direction, son
voilà,
parti.
Voilà, exactement. Donc, il y a des pas qui se font de ce côté-là. Alors, si on veut augmenter les ventes de véhicules électriques ici, on a simplement à mettre l'essence à 1,60 vous allez voir qu'il va y avoir un intérêt qui va augmenter rapidement.
Quand on se compare, on se console, on dit.
Ouais. Ben, c'est ça, exactement.
Tu as tout à fait raison, Benoît. On n'a qu'à regarder les pointes de vente des véhicules compacts et sous-compacts.
Ouais.
Quand nous traversons une longue période de prix de carburant élevé. C'était pas à la mode il y a 10-15 ans, mais les gros VUS et les pick-up.
Exact. Puis moi, le meilleur exemple que j'ai récemment, ça s'est arrivé aux États-Unis, on a eu une augmentation qui était à près de 5$ le gallon aux États-Unis. Et subitement, l'intérêt pour les véhicules hybrides et hybrides électriques a monté en flèche, tant et si bien que Toyota avait fait des plans pour commencer. En fait, on a commencé la construction d'une usine de véhicules Toyota hybrides aux États-Unis. Puis quand le prix de l'essence a rebaissé, zéro. Ils ont même pas fini l'usine parce que finalement... Donc, c'est quand même surprenant qu'un investissement aussi important se fasse finalement un peu sur la gueule, qu'on décide de dire, OK, ça a rebaissé, je vais être correct.
On ne comprend jamais, même dans la perspective actuelle, de dire il est nécessaire d'adopter des nouvelles normes pour lutter contre les changements climatiques. Ouais. C'est la dictature, je pense que vous allez être d'accord, tout le monde, la dictature du prix du litre ou du gallon américain.
Absolument.
Quand vous arrivez à la pompe, c'est votre dictateur. En ce sens que vous dites, hey, on a un petit break. 1,17,4.
Ben oui, tout le monde est content.
Et là, on est content d'avoir son F-150. Ouais. On est content d'avoir le VUS et tout ça. Oui. À un moment donné, arrive une crise, tout le monde se met à en parler. Oh, mettons un exemple, là, je donne. Ça montait à 2,10 le litre.
Ouais.
Panique générale. La clientèle, le marché, dicterait aux entreprises, donnez-nous vite des voitures économiques, des voitures hybrides, voitures électriques.
Tant que le prix de l'essence va être abordable, ça va ralentir l'avancée des véhicules électriques. C'est aussi simple que ça. Mais les gens veulent faire le sacrifice, mais ils ne veulent pas payer pour.
Oui.
Alors, c'est
un bel exemple de ça. Et tu disais, Benoît, que la Colombie-Britannique, mais tu as fait la référence et tu t'en vas là, la Californie.
Oui.
La Californie, c'est là où le prix de l'essence est le plus cher.
4,99 la semaine passée. Hey, j'étais à Malibu.
Imagine, hey. C'est des fois le plus cher que le litre d'essence vendu à nos pompes à nous ici.
C'est pas loin, là. À 3,78 litres, là, on est à une pièce et des poussières. Là.
Ça chiale en Californie, mais en se disant, ouais, mais on est l'État le plus vert.
C'est ça.
Et le plus en avance. Et tout ça. Mais il s'en vend des véhicules électriques.
Californie, c'est un des États où il y en a le plus aux États-Unis. D'ailleurs, je termine en 30 secondes pour parler rapidement du Audi RS6 que je suis allé essayer. Je peux pas donner d'impression de conduite parce que mes collègues sont encore à l'essayer. Ça se termine le 23 novembre prochain. Mais c'est un véhicule qui va arriver l'an prochain. Donc, on est presque un an d'avance.
Et ça ressemble à quoi comme...
C'est une familiale. C'est une Audi A6 familiale qui a un moteur V8 de 600 chevaux. C'est une fusée, là. C'est la première fois qu'on a une RS6 en Amérique du Nord. C'est ça le grand intérêt. C'est la quatrième génération, mais c'est la première fois qu'on en a un. Et c'est un véhicule qui est à la fois sportif, polyvalent, pratique. Ça, c'est le genre de véhicule que beaucoup de pères de famille pressés qui n'ont pas les moyens d'avoir toujours le véhicule qu'ils veulent, ça combine tout ça. mais le prix va être à l'avenant. Là. On n'a pas annoncé de prix, mais attendez-vous à un 140, 150 000 pour ce genre de véhicule-là. Mais,
et VUS, mais c'est un char que soif, j'imagine?
C'est pas si pire.
Ah oui,
c'est
un gros 8.
Tout ça pour arriver plus vite au bureau?
C'est pas si pire. Pour arriver plus vite au bureau.
C'est moins pire qu'un triton.
C'est sûr que les possibilités dépassent très largement nos limites. C'est un triton. Oui, c'est un triton familial. Le
triton, c'est un V10.
Oui, je sais. À copier. 6.8. Non, ça, c'est un trou à gaz.
Un cratère.
Alors, tout ça pour dire que sur benoîtcharrette.com, je vais avoir un texte le 26 novembre. Et avant qu'on oublie, Paul, on a un livre à faire tirer aujourd'hui.
Oui.
Alors, la petite question pour les gens qui veulent appeler. Ouais. On fait le 790-9850 ici. De quelle auto je viens juste de parler?
Oui, exactement. Celle qui pourrait aller chercher dans les 145 000.
La fusée, là.
La fusée.
Je pars en rire parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui va signer un chèque ou encore, peu importe, s'embarque dans des paiements de 145 000 à
150 000. Il y en a dans 2, 3, 4, 500 000, Paul.
Eh oui. Tout ça. Merci et bon voyage à L.A.
Oui, on s'en repart. On va parler du salon la semaine prochaine.